France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les frères musulmans, le mouvement islamiste menace la cohésion de notre République, affirme un rapport présenté ce matin, on va vous le détailler. Rapport dont se saisit immédiatement le gouvernement ainsi qu'Emmanuel Macron, conseil de défense ce matin. On va également décrypter cette intense bataille politique autour de ce texte. À suivre encore des départements qui pensent leur plaie après le déluge du début de semaine. Ici Frédéric, employé municipal à Eugénie-les-Bains, nous sommes dans les Landes.
Karcher, le Réclois, pour nettoyer tout ça. On est en train d'enlever le plus gros, c'est-à-dire la vase. Quoi. Le collègue, il passe l'ancien samedi pour nettoyer au plus propre.
Nous serons également au Lavandou dans le Var dans quelques minutes. Deux morts hier et des scènes de désolation. Et puis nous reparlerons de ces heures d'angoisse à partir de 13h30 avec nos invités. On tentera de comprendre notamment comment les systèmes d'alerte ont fonctionné et permis d'éviter un bilan encore plus lourd. 01 45 24 7000 pour être avec nous. À suivre encore un vaccin obligatoire pour les soignants contre la grippe, c'est ce que demandent les hôpitaux français. L'aide humanitaire au compte-gouttes à Gaza et le retour des célèbres vaches sur le rond-point du même nom en Seine-Maritime. Et puis dans une vingtaine de minutes, nous serons à Cannes. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Vous nous y attendez pour les sorties cinéma de ce mercredi.
Oui, avec l'opus final de Mission Impossible, le dernier Cédric Clapiche et le nouveau drame social des frères Dardenne, trois films présentés ici à Cannes cette quinzaine.
A tout de suite, 13h50, c'est la France. Comment vont les parents ? Ils sont un peu en difficulté avec les injonctions contradictoires, nous dira Patrice Trappier du 1 Hebdo. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'humoriste Guillaume, Linda Lemay et Frédéric Pommier. Il sera question des mères, il paraît que c'est leur fête en fin de semaine. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est un travail d'un an mené par deux hauts fonctionnaires qui veulent, pour des raisons de sécurité, rester anonymes. Un rapport qui, avant même d'être lu, puisqu'il n'a pas été officiellement publié, suscite une cascade de réactions politiques. Ce rapport traite de l'organisation Les Frères Musulmans, mouvement international, dont les auteurs expliquent que dans notre pays, ils menacent, je les cite, la cohésion nationale en s'infiltrant dans les associations, dans les institutions et en tentant d'y imposer les préceptes de l'islam. Ce rapport est au cœur d'un conseil de défense qui s'est tenu ce matin à l'Élysée et qui doit prendre des mesures. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous nous direz lesquelles dans un instant. D'abord, arrêtons-nous sur cette enquête avec vous, Sarah Guibaudot. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous voulez être procurer 75 pages avec des chiffres.
Oui, une association principale musulmane de France, un millier de militants au maximum dans le noyau dur, des cadres vieillissants et des ressources amoindries, notamment depuis la fin des financements étrangers comme du Qatar. Leur mosquée serait fréquentée par 91 000 fidèles le vendredi quand la France compte quelque 7,5 millions de musulmans. Mais la force de la mouvance, ce sont ses réseaux locaux. Près de 300 associations dans l'éducation comme étudiants musulmans de France, quelques dizaines d'établissements scolaires, dans le social avec le Secours islamique ou Ma Charity, ou humanitaire, ou le sport. Face au pouvoir public, Musulmans de France se veut le représentant de tous les musulmans, alors qu'elle n'en constitue qu'une petite fraction. Elle utilise, dit le rapport, un double discours, plus policé en façade, mais dont les fondamentaux restent l'intolérance, la non-mixité, le port du voile pour les femmes, et un antisionisme qui tourne à l'antisémitisme. Le rapport observe que l'islamisme se développe à partir de ses acteurs, mais aussi d'influences parfois d'élus locaux qui mélangent le frérisme et le salafisme.
Alors, ce rapport cite des lieux, des communes de France où son influence est déjà forte, et notamment Décines-Charpieu près de Lyon où se trouve le plus grand groupe scolaire musulman privé de France. L'État vient d'ailleurs de résilier son contrat avec cet établissement. Bonjour Christophe Vincent.
Bonjour Jérôme.
Vous avez pu échanger avec quelques profs et parents d'élèves ce midi.
Oui, à la sortie des cours, quelques parents sont vaguement au courant du contenu du rapport. Ils désignent Al-Kindi comme l'une des fondations principales de la mouvance frériste du Rhône avec la mosquée de Villeurbanne. Cette mère d'une élève de 3e ne comprend pas, elle rappelle le niveau d'excellence de l'établissement et rejette en bloc les critiques.
Nous, on trouve aucun lien. On est une école qui a été sous contrat depuis plusieurs années, qui l'est toujours. Pour l'instant, on n'a pas de, il n'y a pas de jugement définitif. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit apparu comme ça, du jour au lendemain, cette relation avec les frères musulmans. Je pense qu'il n'y a aucune définition de ce que c'est un frère musulman. Je pense, apparemment, bah, dans le rapport, il n'y a pas de... On peut être tous des frères musulmans, je pense, si on suit leur logique.
Plus loin, un prof d'histoire géo soupire. J'ai été inspecté plusieurs fois, les livres incriminés se trouvent dans toutes les bibliothèques et il parle d'acharnement.
C'est complètement faux, parce qu'on nous accuse de choses qui ne reflètent pas le Kindi. Le dossier est complètement vide. Hein. On est victime d'islamophobie, tout simplement. On n'ose pas utiliser ce genre de terme, c'est tabou en France. L'islamophobie est interdite, pourtant elle existe réellement.
L'enseignant ne cache pas son inquiétude, il s'interroge sur son avenir. Si la résiliation du contrat se confirme, dit-il, le financement s'arrêtera et ce sera dur de rester.
Merci Christophe Vincent, correspondant de France Inter à Lyon. La Fédération des musulmans de France, présentée dans ce rapport comme la branche nationale des frères musulmans, a d'ailleurs réagi ce matin. Elle dénonce des accusations infondées et des amalgames dangereux entre islam et radicalité. Elle rappelle avoir signé il y a 4 ans la charte des principes pour l'islam de France. Sarah Guibaudon, on vous retrouve au-delà de l'école de Décines où nous étions à l'instant. Il y a d'autres exemples concrets dans ce rapport.
Oui, le rapport parle d'écosystèmes locaux. Autour d'une mosquée se développent des cours d'éducation coranique, l'équivalent du catéchisme, des commerces communautaires, des associations caritatives, de voyages, de sport, d'aide à l'emploi, des sites de rencontres. Ils ont pris racine dans des quartiers pauvres à majorité musulmane, en Rhône-Alpes, dans le Nord, le Grand Est, l'Île-de-France et les Bouches-du-Rhône. Autour de la grande mosquée de Lille s'est ainsi développé le centre islamique de Villeneuve-d'Ascq et le lycée Averroès, même si l'expulsion de l'imam Iqiyoussen a marqué un coup d'arrêt à l'expansion de cet écosystème, dit le rapport. Il cite aussi le centre musulman de Marseille, sa mosquée, son collège-lycée et des associations comme Jeunes musulmans de France qui a cultivé ses liens avec les municipalités successives. Car pour le rapport, il y a une pression croissante de responsables islamistes sur les mairies qui entrent parfois dans une gestion clientéliste et laisse présager la montée d'un islamisme municipal, une menace à court-moyen terme, dit le rapport, qui rappelle que le projet des frères musulmans est bien de remettre en cause la laïcité ou l'égalité homme-femme.
Merci Sarah Guibaudot. Alors ce rapport propose aussi des mesures pour lutter, je cite, contre le sentiment de rejet ressenti par les Français de confession musulmane. Parmi ces propositions, création de davantage de carrés musulmans dans les cimetières, il en manque, ou encore l'apprentissage accru de l'arabe à l'école. Que va décider le chef de l'État ? Emmanuel Macron présidait donc sur ce sujet ce matin un conseil de défense et de sécurité nationale avec Marie Mollet, des mesures à la clé.
Oui, c'est ce qu'affirmait l'Élysée hier. Il y aura des mesures prises. Certaines seront rendues publiques, d'autres resteront classifiées. La question des réseaux sociaux doit être, nous dit-on, au cœur de la réunion. Mais peu de détails donc. Et ce matin encore, les cabinets de deux ministres présents autour de la table assuraient ne rien savoir des arbitrages à venir. Un autre conseiller admettait que c'était flou. Tout le monde a été pris de court, dit-il, par les fuites du rapport dans les colonnes du Figaro.
Alors Emmanuel Macron en première ligne pour ne pas se faire damer le pion, car ce rapport est l'objet en coulisses d'une féroce bataille politique depuis plusieurs jours.
Oui, car avant même la tenue du Conseil de défense, Bruno Retailleau a commenté le rapport et donné sa lecture personnelle, celle d'une menace de submersion, dit-il, d'un islamisme à bas bruit qui aurait pour but de faire basculer toute la société française dans la charia. Des mots qui ont irrité certains au gouvernement. Il fait du bruit et de l'écume, s'agace une source au sein de l'exécutif. En réalité, il n'y a rien de très neuf dans ce rapport et beaucoup de mesures ont déjà été prises d'après cette même source. Au gouvernement, certains soupçonnent le ministre de l'Intérieur d'avoir fait fuiter le rapport dans le Figaro. Après tout, c'est lui qui plaide pour rendre ce rapport public depuis des mois. Alors, est-ce pour reprendre la main que l'Élysée a organisé un briefing presse hier dans l'après-midi ? Les conseillers ont insisté. Ce rapport a été commandé par le président, il y a plus d'un an. En clair, Bruno Retailleau était alors très loin de la place Beauvau, alors que le nouveau président de LR cherche à prouver qu'il a un bilan, accusé par ses adversaires, au RN notamment, de parler sans agir concrètement.
Merci Marie Mollet. J'ajoute la proposition faite par Gabriel Attal d'interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. L'opportunisme de Gabriel Attal sur ces questions-là fait le jeu des islamistes, réagit le député de la Somme François Ruffin. tout en s'inquiétant d'une évidente volonté d'islamistes de séparer les musulmans de la République. Fin de citation. L'autre grand titre aujourd'hui, ce sont donc les conséquences des intempéries de ce début de semaine, du département des Landes à celui du Var, en passant par la région Occitanie. Les dégâts sont considérables. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est dans le Tarn-et-Garonne aujourd'hui, pendant que dans le Var, où la soudaine montée des eaux a fait 3 morts hier, des habitants sont toujours privés d'eau et d'électricité, voire bloqués chez eux. Notre journaliste Mathilde Vincenot est au Lavandou.
Dans les rues de Cavalières, des pelleteuses enlèvent des montagnes de boue. La route qui part du bord de mer et monte vers les hauteurs ressemble à une rivière. L'eau marron dévale encore les pentes. Au milieu des troncs d'arbres, des voitures renversées et des pylônes électriques couchés, un camping a été dévasté. Le torrent a arraché les terrasses. Le terrain a glissé. Marc habite à l'année l'un des mobilhomes. Il a vu sa véranda emportée par les eaux.
On était à la baie vitrée, là. Et on a vu le spa, il est parti. On a vu pencher et hop, il est parti d'un seul coup. Le barbecue, là, le ruisseau, il faisait 1m20, là, il fait 10 mètres de large. Une fois que c'est passé, on est sorti pour voir l'ampleur des dégâts, et comme s'il y avait une bombe qui était passée. Hein. On avait aidé nos voisins qu'on a passé par la fenêtre de notre cuisine parce qu'ils avaient de l'eau jusqu'à la taille, parce que le mobilhome prenait l'eau et puis la véranda, elle est tombée de l'autre côté. Tout est arrivé dans le camping. Hein. Il n'y a plus rien.
La structure du mobilhome est fragilisée, les voitures sont coincées, alors Marc et son mari tentent de tout consolider.
On va essayer de sauver ce qu'on peut sauver, puis voir si on reconstruit ou pas, et puis on verra bien. Ils nous ont monté 2 packs d'eau hier, et puis on fait des toilettes comme on peut, et puis voilà, on n'a pas le choix. Puis c'est que accessible en 4x4, quoi. Parce qu'en voiture normale, on passe pas.
Ici, les habitants sont encore coupés du monde. La mairie et les pompiers apportent des packs d'eau. Un camion-citerne vient d'arriver plus bas dans le quartier.
Et nous y revenons à 13h30 avec nos invités. Le maire du Lavandou, notamment, il nous dira si le système d'alerte a bien fonctionné. J'attends aussi vos témoignages. 01 45 24 7000. C'est une catastrophe dans la lutte contre le réchauffement climatique. La destruction des forêts vierges tropicales a atteint l'an dernier un niveau record depuis au moins 20 ans, selon l'observatoire de référence, l'observatoire Global Forest Watch. C'est en fait une superficie équivalente à un pays comme le Panama qui a disparu. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
En cause des incendies liés à des activités humaines.
Oui, c'est la mauvaise surprise pour les chercheurs de cet observatoire qui publie chaque année ce bilan. Jusqu'ici, la première cause de déforestation, c'était le défrichement pour étendre les terres agricoles. En 2024, ce sont les incendies, plus de la moitié des pertes. Résultat, 80% de déforestation en plus par rapport à 2023. Principales zones touchées, les forêts boréales, Russie, Canada, des incendies causés par les activités humaines, défrichement, mais aussi exploitation minière. L'inquiétude, c'est que ces feux s'étendent aux forêts tropicales primaires, pourtant inaccessibles, décrivent les chercheurs de l'Université du Maryland. Peter Potapoff est co-directeur du laboratoire d'analyse des terres mondiales qui coordonne ce rapport.
Les forêts tropicales primaires contiennent la biodiversité la plus importante de tous les écosystèmes et stockent plus de carbone que toutes les autres forêts. Nous constatons la plus forte hausse d'incendie de ces forêts tropicales de ces dernières années. Ces 2 dernières années ont été les plus chaudes. Le changement climatique causé par l'homme crée les conditions de ces incendies avec des sécheresses extrêmes en Amérique latine et dans une partie de l'Afrique et un fort phénomène El Niño.
Une nouvelle encourageante toutefois, en Asie, les politiques de prévention des feux de forêt indonésiennes, par exemple, ont permis de freiner la déforestation. Mais il leur faut des outils de surveillance, notamment satellitaires, et les chercheurs s'inquiètent des coupes budgétaires américaines qui les financent. 140 pays se sont engagés à stopper en 2030 la déforestation. Il leur reste 5 ans.
Rémi Brancato, le nombre de détenus qui dorment sur des matelas au sol en France a explosé l'an dernier. Plus 30%, ça concerne 4800 personnes, selon la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, qui publie aujourd'hui son rapport annuel. Selon elle, il manque 6000 surveillants pénitentiaires. 30% des détenus souffrent de troubles psychiatriques graves. Il y a eu le pardon accordé par Kim Kardashian au plus chevronné des papy braqueurs. C'était pendant l'audience. Mais quelle sera la peine retenue par la cour d'assises de Paris pour les menaces et le vol des bijoux de la star américaine? C'était en 2016. L'avocate générale a livré ce matin, durant 4 heures, ses réquisitions. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Palais de Justice de Paris. Réquisition plutôt clémente en raison de l'état de santé de ces malfrats?
Des peines plutôt mesurées, oui, avec 10 ans de réclusion réclamés pour tous les participants directs au braquage, dont le trio qui a fui à vélo avec le butin, trois braqueurs chevronnés du grand banditisme, a martelé l'avocat général, tentant tout au long de son réquisitoire de repousser l'image de papy braqueur, de pieds nickelés avec des rites rassurantes, impliqués dans une histoire qui peut paraître drôle et sympathique. Non, cette audience est là pour juger de faits graves et condamner les 10 accusés que la représentante de la société estime tous coupables. Alors, dans leur délibérée, elle invite ses jurés à prendre en considération le traumatisme des victimes. Les braqueurs n'ont eu aucune empathie pour Madame Kardashian, souligne encore sèchement l'avocat général. Avant d'adoucir le ton et le propos quand il s'agit d'évoquer l'état de santé des malfaiteurs, saluer l'un d'eux en chimiothérapie, désormais hospitalisé et pourtant venu courageusement plusieurs fois, écarter totalement le risque de récidive pour le principal accusé, désormais trop faible, et finalement donc, à l'issue d'un propos sobre, pour ne pas dire un peu plat, requérir des peines allant de l'amende à 10 ans de réclusion, 7 ans pour ceux qu'elle estime être les taupes de ce braquage.
Charlotte Piret en direct du palais de justice de Paris. Deux morts la nuit dernière au large de Calais, une femme et un enfant qui tentaient de traverser la Manche clandestinement. Cela porte le bilan à 5 morts dans ces tentatives de traverser ces 10 derniers jours. Je vous ai parlé des agriculteurs du sud-ouest il y a quelques minutes. Les lycées agricoles vont devoir rendre 45 postes à la rentrée prochaine. La mesure d'économie décidée par le gouvernement a été annulée pour les autres lycées, mais pas pour eux. Alors les professeurs manifestaient une nouvelle fois ce matin dans les rues de Paris. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Vous y étiez. Bon, ce mouvement dure depuis des semaines. Ils n'ont toujours rien obtenu ?
Non, toujours rien obtenu. Et cette fois, pour essayer de mieux se faire entendre, ils se sont donc rassemblés devant le ministère de l'Agriculture, dont ils dépendent. 45 suppressions de postes d'enseignants temps plein. Ça peut paraître faible sur le papier, mais sur les 800 établissements agricoles en France, 220 sont publics. Ces coupes budgétaires vont avoir des répercussions dès la prochaine rentrée sur certains d'entre eux, souligne Corinne Fablet, enseignante dans un lycée agricole à Rennes.
On a en Bretagne 8 suppressions de postes sur 8 établissements publics. Moi, dans le mien précisément, il y a 2 suppressions de postes et il y a une suppression de classe du bac techno. Donc ça veut dire plus d'élèves sur la dernière classe qui va rester. Donc des conditions d'apprentissage pour nos élèves qui sont dégradées. Et puis après, c'est un vivier qu'on réduit en fait pour recruter des élèves en BTS.
Mesure incompréhensible et contradictoire avec l'ambition du gouvernement de former 30% de futurs agriculteurs en plus d'ici 2030, souligne Frédéric Chassagnette, secrétaire général du SNETAP FSU, premier syndicat de l'enseignement agricole public.
Cet enseignement agricole est censé répondre normalement au renouvellement des générations en agriculture avec la moitié de la population agricole, les actifs agricoles qui partent en retraite dans les 5 à 8 ans. Donc c'est incompréhensible. Si vous commencez à supprimer des places, voire des classes dans les 3 ans qui suivent, vous avez la moitié de vos formations de première et de terminale qui s'effondrent, voire vos BTS. Et clairement, des petits lycées agricoles, notamment dans le monde rural, peuvent se retrouver à être rayés de la carte et à fermer.
Les représentants syndicaux espèrent être reçus au ministère et redire leur inquiétude de voir des territoires ruraux se vider davantage.
Mariam El Kurdi.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
La pression internationale va-t-elle contraindre Israël à ouvrir les portes de Gaza en grand à l'aide humanitaire ? Ce matin, c'est le pape Léon XIV qui, à son tour, lance un appel pour, je cite, « une aide humanitaire décente ». Alors pour l'instant, les camions n'entrent qu'au compte-gouttes dans l'enclave et c'est nettement insuffisant, nous dit Pascal Coissard. C'est la coordinatrice des urgences de Médecins Sans Frontières à Ran Younes, dans la bande de Gaza.
Ici, tout le monde a faim. Tout le monde a besoin de médicaments, tout le monde a besoin de produits d'hygiène, tout le monde a simplement besoin de survivre. Donc on n'est pas du tout dans l'ouverture de l'aide humanitaire à Gaza, on est dans une instrumentalisation de l'aide, c'est juste un écran de fumée. C'est pas ces camions-là qui vont changer la faim à Gaza, c'est juste pour pouvoir dire qu'on a fait rentrer. Donc c'est un outil au service des objectifs militaires pour pouvoir continuer les objectifs militaires à Gaza.
Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Pour l'instant, cette aide arrive de manière chaotique et très transitoire, expliquez-nous.
Oui, on peut dire que cette opération patine parce que d'après nos informations, le gros des camions est toujours bloqué dans le sud de l'enclave. D'abord, il y a les contraintes qui sont imposées par les Israéliens et qui restent incompatibles avec la distribution. Ensuite, la route pour acheminer l'aide n'est pas sécurisée. Et de toute façon, il faut comprendre que cette ouverture à l'ONU est transitoire pour 4 jours au total, jusque vendredi inclus, en attendant la mise en place d'un nouveau dispositif de distribution validée par Israël et les États-Unis. Cette nouvelle architecture sera gérée par une ONG qui est enregistrée en Suisse, qui est soutenue par le gouvernement Trump. Elle doit commencer la distribution exclusive de l'aide humanitaire ce samedi sur 5 sites qui ressemblent à des fortins entourés par de hauts murs de sable et de terre, d'après des images satellites qui ont été diffusées par la BBC. L'acheminement de cette aide va se faire par des véhicules blindés. La sécurité du site sera assurée par une compagnie de sécurité privée. Une partie seulement de la population aura accès à cette nourriture. Et c'est la critique principale de l'ONU et des acteurs traditionnels de l'humanitaire. Ce dispositif ne permet pas d'atteindre les plus vulnérables. C'est aussi perçu comme une militarisation du soutien. Mais Israël considère que c'est une réponse appropriée pour empêcher le Hamas de mettre la main sur l'aide humanitaire.
Merci Étienne Monin pour ces informations. Joe Biden a-t-il caché son cancer de la prostate aux Américains depuis la révélation de la maladie de l'ancien président? Des proches de Donald Trump l'ont suggéré. Eh bien, la porte-parole de Joe Biden a précisé la nuit dernière qu'il avait bien été diagnostiqué la semaine passée. Contribution importante ce matin dans le débat sur la vaccination obligatoire des soignants dans notre pays. Certains vaccins sont déjà obligatoires, mais il faudrait que ce soit aussi le cas de celui contre la grippe saisonnière. Bonjour Victor Delange.
Bonjour Jérôme.
C'est la Fédération hospitalière de France qui regroupe les hôpitaux publics français qui le demandent. Pour quelle raison ?
Ce qu'il faut d'abord bien comprendre, Jérôme, c'est que c'est la première fois qu'un organisme aussi important dans le monde de la santé arrête une position aussi tranchée depuis la très forte épidémie grippale l'hiver dernier. Des personnalités avaient pris la parole pour, disait-il à l'époque, rouvrir le débat de cette vaccination obligatoire. Là, c'est plus franc. La Fédération hospitalière de France, par la voix de son président Arnaud Robinet, estime que cette extension vaccinale est nécessaire dans un double objectif de protection des soignants, mais également des patients. Et le maire Horizon de Reims d'enfoncer le clou. Si le niveau de vaccination était suffisant, il est à peu près certain que nos services hospitaliers n'auraient pas connu l'engorgement de l'hiver dernier. Fin de citation. Alors oui, la vaccination contre la grippe est faible. Moins d'un soignant sur deux l'a effectué l'hiver dernier. En revanche, on manque encore de données épidémiologiques pour savoir concrètement si les soignants grippés à l'hôpital contaminent les patients. Ça tombe bien. Selon nos informations, un chercheur lyonnais a justement lancé une étude sur cette question il y a quelques mois. Des résultats très attendus par la Haute Autorité de Santé qui émettra un avis sur cette obligation vaccinale des soignants contre la grippe, mais pas avant l'année prochaine.
Victor Dolande, la menace d'un procès s'éloigne fortement pour les anciens ministres et premiers ministres Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn. Ils étaient visés par une enquête pour leur gestion du Covid. Le ministère public, près la Cour de justice de la République, vient de demander un non-lieu à leur égard, car estime le ministère public, de nombreuses initiatives ont été prises par le gouvernement pour combattre la pandémie. C'est maintenant à la commission d'instruction de trancher. C'était un lieu emblématique du mouvement des Gilets jaunes, le rond-point des Vaches. Nous sommes à Saint-Étienne-du-Rouvray, département de Seine-Maritime. Eh bien, les fameuses statues de bovins qui l'ornaient avaient été volées durant l'occupation, pas forcément par des Gilets jaunes d'ailleurs. Leur retour était réclamé. Elles viennent d'être réinstallées, Bastien Roch.
Jacqueline a le sourire alors que les agents de la ville installent les statues. Cette habitante est venue exprès promener son chien ici.
Ma fille allait passer tout à l'heure, elle me dit bah, « ça y est, mettre les vaches, j'y vais ». Mais je suis trop contente. Je les attendais, moi.
Elles vous manquaient ?
Ah bah oui, quand même, parce que bon, c'est quand même le truc de la Normandie, les vaches. Comme ça, bah, on fera un coucou quand je vais passer, en espérant qu'ils restent, quoi.
Les anciennes avaient été dégradées, voire volées lors de l'occupation du rond-point par les Gilets jaunes fin 2018. Carlos en faisait partie.
Ça nous manquait, nos petites vaches sur le rond-point, ça c'est vrai. Bah, j'ai été présent le jour où ils ont arraché les vaches. C'était des gens qui étaient alcoolisés. Pour moi, ils n'avaient rien à voir avec les gilets jaunes et bah, ils ont fait des conneries. Ça, je regrette profondément.
Des statues toutes neuves, mais quasiment identiques aux originales, explique Pascal Lecousin, l'adjoint à la mairie en charge de l'urbanisme.
Ouais, c'est pratiquement les mêmes. On a gardé le ton marron. Elles sont un peu différentes. Elles sont plus légères pour nos agents pour les installer, c'est mieux.
Deux d'entre elles font face aux nombreux camions qui passent par le boulevard Lénine. Un message du maire Joachim Moïse contre le projet de contournement de Rouen.
Ici, nous ne voulons pas de cela. Les vaches n'en veulent pas. Elles ne veulent pas de ce contournement reste, à l'image de la population, bien évidemment.
Il a d'ailleurs annoncé leur retour samedi dernier lors d'un rassemblement contre le projet sur ce même rond-point.
Reportage ici Normandie, le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
Elle est tout jolie, mes fesses.
Et notre rendez-vous du mercredi en direct de Cannes, évidemment, avec Alexis Demeyer. Alexis, la grosse sortie de la semaine, c'est bien sûr le 8e, sans doute le dernier volet de Mission Impossible.
Oui, Jérôme, vous vous en souvenez sans doute. Il y a pile une semaine, Tom Cruise est venu ici à Cannes présenter son nouveau blockbuster, The Final Reckoning, c'est son titre, et la suite directe du précédent épisode de la saga sorti en 2023. On y retrouve bien sûr l'habituel sauveur du monde Ethan Hunt qui doit combattre, Air du temps oblige, une intelligence artificielle.
Your team has been betrayed, Ethan. Your secrets compromised.
Le scénario sert ici de prétexte et c'est tant mieux car il est aussi dur à suivre que régulièrement abracadabrantesque. Mais c'est un plaisir de retrouver Tom Cruise et sa dream team de casse-cou. Et le réalisateur Christopher McQuarrie nous gratifie de plusieurs scènes d'action de grande classe. Mention spéciale pour la longue séquence aussi silencieuse que majestueuse dans l'épave d'un sous-marin russe.
Autre film très attendu cette semaine, La venue de l'avenir de Cédric Clapiche.
Oui, 15e long métrage du réalisateur de L'Auberge espagnole et du Péril jeune, La venue de l'avenir est une comédie dramatique et historique puisque pendant 2h06, nous ne cessons de faire des allers-retours entre 1895 et 2025. Plusieurs cousins éloignés héritent d'une maison abandonnée en Normandie. Ils décident d'enquêter sur l'une de leurs enceintes, de leurs ancêtres, pardon, contemporaines des peintres impressionnistes.
J'ai besoin de savoir qui est ma maman.
Tu l'as pas vu depuis combien de temps, ta mère ?
20 ans. Pourquoi vous voulez quitter le Havre ?
Bah, tout se passe à Paris maintenant.
Il y a du beau monde au générique. Suzanne Lindon, Cécile de France, Vassily Schneider ou encore Vincent Macaigne. Comme parfois chez Clapiche, le résultat est ici un peu naïf et quelques rebondissements sont trop binaires. Mais le souffle romanesque des scènes d'époque et la douce émotion des séquences actuelles permettront au film sans nul doute de trouver son public qui pourra le découvrir seulement à partir de demain, en même temps que sa présentation de gala ici à Cannes hors compétition.
Il y a une autre sortie décalée cette semaine, ouais. Alexis. Les jeunes mères des frères Dardenne.
Il sera en salle seulement vendredi, jour de son entrée en compétition. Les Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne vont en effet tenter de décrocher une troisième palme d'or après celle pour Rosetta et pour l'enfant.
J'ai décidé que j'allais placer Lily en famille d'accueil.
Qu'est-ce que cette connasse de psy t'a encore fourré dans le crâne, dans ta maison maternelle de merde?
Voilà un extrait de Jeune Mère, un film qui évoque le quotidien d'adolescentes enceintes recueillies dans un foyer en Belgique. Je vous en reparlerai en détail, c'est promis, vendredi soir.
Quoi d'autre à l'affiche ? On a hâte. Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
Oli, un récit d'apprentissage dans le milieu des skateurs. Les Maudites, un film d'horreur espagnol. Et Lilo et Stitch, une nouvelle déclinaison en live action d'un dessin animé Disney.
Merci Alexis de Meyer. C'est un haut lieu du cinéma en France. La transition est toute trouvée. C'est la Butte Montmartre. Eh bien, c'est désormais aussi un classique du cyclisme après les Jeux Olympiques. L'été dernier, on s'en souvient, ce sont les coureurs du Tour de France qui vont la gravir cette butte à 3 reprises le 27 juillet prochain avant une arrivée, bien évidemment, sur les Champs-Élysées. Inédit et réjouissant pour le patron du Tour, Christian Prudhomme, qui a dévoilé le parcours ce matin.
L'une des images la plus forte pour moi des Jeux Olympiques de Paris, c'est cette image de la rue Le Pic de ferveur qui était absolument exceptionnelle pour le cyclisme, en général le cyclisme sur route. Donc cette ferveur-là, c'est celle du Tour de France. Donc bien évidemment, dès après les Jeux, dès le mois de septembre, on a commencé à travailler. Et il y avait une sorte d'évidence pour nous de se dire, si on n'a pas l'autorisation en 2025, on ne l'aura jamais. Voilà, ça s'est produit. 6 mois de travail avec la ville de Paris et avec la préfecture de police. Et le circuit désormais validé. Donc 3 passages, 3 tours complets. 4 passages, mais 3 tours complets du circuit traditionnel des Champs-Élysées, et ensuite 3 grands tours jusqu'à Montmartre, avec donc 3 passages par la butte Montmartre, et la butte, la dernière côte, à 6 km seulement de l'arrivée de l'étape et de l'arrivée finale du Tour de France.
Avec Nicolas Perronnet, le patron du Tour, Christian Prudhomme, les coureurs sont un peu plus sceptiques sur ces pavés. On aura l'occasion de leur donner la parole. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust, puis à 13h30, on reparle de ce déluge sur le département du Var. Hier, 3 morts, des dégâts considérables. Comment le système d'alerte a-t-il fonctionné ? Les aménagements dans les communes sont-ils suffisants ? On entend ces remarques, ces critiques depuis quelques heures. Comment sont-elles perçues sur place ? Nous serons notamment avec le maire du Lavandou dans quelques minutes et avec vous 01 45 24 7000 pour vos témoignages et questions. 13h45 à 2 semaines de la révélation du prix du livre Inter, présentation d'un autre livre candidat. Ils sont 10 au total. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur Un perdant magnifique de Florence Cévos. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Patrice Trappier, et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme.
Patrice, vous vous intéressez aux parents.
Oui, je vais vous parler aujourd'hui d'un phénomène qui est resté longtemps tabou, la souffrance psychique des jeunes parents.
Et avec vous Frédéric, un humoriste.
Un humoriste belge, il est également vidéaste et c'est par ses vidéos qu'il s'est fait connaître. Il s'agit de Guillaume et avec lui c'est la voix de Linda Lemec. Nous écouterons sa chanson « Une mère ». L'occasion pour Guillaume de parler de la sienne, des liens très fusionnels. Il s'appelle 10 fois par jour.
Et avant la fête des mères, ce dimanche, merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Êtes-vous contraphobe ?
Oh bah oui, parce que franchement, les estimations de remboursement de frais de santé en pourcentage qu'on doit calculer, bah c'est comme peser les légumes soi-même au supermarché. On a l'impression de payer les gens, mais de faire leur boulot.
Chez Malakoff Humanis, notre simulateur estime les frais de santé directement en euros.
Ah bah voilà, Malakoff Humanis, vous dites.
Estimation des remboursements des frais de santé en euros ? Clairement, c'est Malakoff Humanis. Retrouvez les informations relatives aux entités du groupe Malakoff Humanis sur malakoffhumanis.com.
Vous, je parie que célébrer la fête des mères en grand et à petit prix, vous dites oui. Alors ce week-end, rendez-vous chez Picard pour profiter du prix plaisir du moment. Nos 30 mini-gougères au fromage à seulement 3,99€ au lieu de 4,99€. Et rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau prix plaisir. Picard, pour le bon et le meilleur. Avec la carte Picard et nous, boîte de 225 grammes, soit 17,73€ le kilo. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
France Inter, partenaire du Balloon Museum, de retour à Paris avec Euphoria, Artis in the Air. Après avoir conquis plus de 7 millions de visiteurs, l'événement dédié à l'art gonflable s'installe au Grand Palais. Des œuvres spectaculaires et monumentales, signées par des artistes contemporains de renom, composent une expérience sensorielle, ludique et interactive pour petits et grands. Euphoria Artis in the Air, la nouvelle exposition du Balloon Museum du 6 juin au 7 septembre au Grand Palais, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le Boom Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Olivier Proust.
Bonjour Jérôme.
Fraîcheur, nuages et pluies dans le nord-ouest.
Oui, et les pluies arrivées sur le nord-ouest s'étendent cet après-midi, délaissant les régions proches de la Belgique. Elles vont gagner le nord de la Nouvelle-Aquitaine, la région centre, et on attend des cumuls copieux parfois de la Normandie vers le sud du bassin parisien. Les cumuls restent plus modestes ailleurs. Sur la façade est, le temps est incertain cet après-midi, avec des averses, voire des orages en Grand Est ou dans le sud des Alpes. Ailleurs, le temps reste sec, mais souvent très nuageux, du sud-ouest jusqu'aux plaines de Rhône-Alpes. Et c'est le retour du soleil en Méditerranée. Après les intempéries d'hier, les vents d'ouest à nord-ouest ont repris la main. Ils soufflent dans un ciel assez bien dégagé, jusqu'à 60-70 km/h sur les côtes varoises ou dans le domaine de la Tramontane. Ailleurs, du vent également, plus modéré, mais bien établi sur la façade atlantique et dans le nord-ouest, jusqu'à 50 km/h en rafale. Et ce vent accompagne un net rafraîchissement dans l'ouest. On n'attend plus que 15 à 19 degrés. Depuis Caen jusqu'à Bayonne, il fait encore doux dans l'est, avec 22 à 27 de Nancy à Avignon.
Olivier Proust, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Des Landes au Var, en passant par la région de Toulouse, la région Occitanie, ce sont des centaines de milliers d'habitants qui constatent les dégâts ces dernières heures, dégâts provoqués par les orages de ce début de semaine, les intempéries. Et je voudrais qu'on s'arrête pendant les prochaines minutes sur ce qui s'est passé dans le département du Var, qui a été le plus touché, les communes de Vidauban et du Lavandou, avec 3 morts et de très nombreux dégâts. Je voudrais qu'on en parle avec nos invités sur place, mais aussi tous ceux qui ont travaillé au moment de la crise pour essayer de prévenir les populations et tous ceux qui travaillent sur l'après. Comment on essaye d'aménager les communes et d'éviter que ce type de scénario ne se reproduise. Vous nous appelez également 01 45 24 7000. Nous sommes en ligne avec Gilles Bernardi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire du Lavandou. Je voudrais vous remercier d'être en ligne avec nous. Votre temps est évidemment précieux. Les auditeurs d'Inter vous connaissent. Vous nous avez accueillis il y a un an dans votre commune pour une émission sur place consacrée à l'érosion, à la montée des eaux. J'aurais aimé converser avec vous à nouveau dans d'autres circonstances, monsieur Bernardi, mais je vous remercie d'être en direct avec nous. Alix Roumagnac est là aussi. Bonjour.
Oui, bonjour.
Fondateur de Predict Service, qui est un organisme qui travaille sur les prévisions météo et sur les inondations majeures. Vous êtes basé à Montpellier. Puis nous sommes en ligne également avec Patrice Morin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du département risques naturels au CEREMA, c'est-à-dire le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. On va parler du plus long terme avec vous dans quelques minutes. D'abord, je voudrais qu'on accueille Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Votre témoignage, vous qui vivez, de ce que je comprends, entre le Tarn et Garonne et la Côte d'Azur.
Oui, en effet, je suis originaire du Tarn-et-Garonne où j'étais il n'y a pas très longtemps et je me suis aperçue effectivement des bouleversements météorologiques, pour ne pas dire climatiques, un vent d'automne de plus en plus fréquent et des pluies, etc. Et vivant sur la Côte d'Azur, je suis responsable d'une association de protection de l'environnement et je suis accessoirement élue écolo. Je suis ça de très très près et ce qui m'inquiète, c'est qu'aucune mesure n'est vraiment prise pour nous, population, être informée. Et on sait que dans quelques jours, Nice va accueillir la conférence de l'océan des Nations Unies où justement un accord de projet doit être pris pour l'initiative des villes littorales et des régions côtières. Pas qu'ici, mais à travers. Et on va jouer un rôle important.
Ici, vous êtes où exactement, Hélène ?
Moi, je suis basée à Nice, mais je connais très bien
Le Var.
D'accord. J'ai passé toutes mes vacances dans le Var. Enfin, je connais bien. On voit l'urbanisation, l'artificialisation des sols. On a un aéroport international qui est en train d'augmenter, de passer de 15 millions à 23 millions de passagers dans les prochaines années. On est en bord de cet arc méditerranéen. Non.
Donc, vous posez les questions d'urbanisation et d'information, Hélène. Merci beaucoup. Je donne la parole à nos invités. D'abord, Gilles Bernardi, vous avez pu vous déplacer dans votre commune depuis ce matin. Quelle est l'étendue des dégâts ?
L'étendue est lourde, grave, comme vous l'avez dit. Nous déplorons deux morts chez nous et ça c'est pas quelque chose qui s'accepte avec plaisir. C'est insupportable. Puis vraiment des infrastructures publiques qui sont très endommagées, des dalles de stationnement effondrées sur des lits de rivières, sur un lit rivière, sur des ponts qui sont endommagés, d'autres qui peuvent plus être circulables, des routes emportées. L'électricité coupée, l'eau, entendu, coupée, qui vient juste d'être un petit peu remise là par secteur, et surtout l'assainissement qui est foutu en l'air, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est... Voilà, donc c'est vraiment dans un quartier de ma commune, qui est Cavalière, qui est un quartier paisible, très vert d'ailleurs, là j'entendais la personne que vous avez avant parler d'urbanisation, la faute qui est encore malheureusement, rien à voir, là il suffit de connaître un peu le terrain, d'être venu à Cavalière, de regarder un peu les bacs du Bleu ou sur les chemins qui montent la route du Golfe, d'anciens Golfes. Bon, ben non, il n'y a pas d'urbanisation, il y a des forêts. On est boisé à 98%. Là.
C'est une vague, Gilles Bernardi, c'est une vague à laquelle vous avez dû faire face, une énorme vague ?
Alors, vous vous souvenez, puisqu'on avait fait, vous l'avez relaté, on avait fait une émission ensemble sur le changement climatique, et c'est quelque chose qui nous anime au Lavandou. Ça nous anime pourquoi ? Parce qu'on est dans l'interrogation, comme tous les Français, tout le monde s'interroge sur le changement climatique. Nous, on est convaincus, on n'est pas climato-sceptiques du tout. On sait que c'est en route, on l'a vu, puisque il y a de l'érosion chez nous, on en a parlé ensemble. Il y a la posidonie à protéger, il y a les espèces animales qui changent également. Donc, on est plutôt dans la programmation temporelle. Voilà, ça se passe. Et on demande à l'État de nous aider pour dire dans combien de temps. Et le CEREMA, notamment, qui est appelé à nous donner des informations sur le paramètre temps, et notamment parce que il nous faut du temps pour déplacer éventuellement des aménagements et des populations. Il nous faut du temps encore pour prévoir les événements intenses et voilà. Et là, on est pile poil sur le phénomène.
Alors justement, est-ce que vous avez été bien alors avant de parler du moyen terme et de l'aménagement des communes, est-ce que hier vous avez été informé rapidement du risque qui arrivait ?
Mais je vais vous dire, c'est là, on est systématiquement sur le même angle lorsqu'il y a une catastrophe qui se produit. Je peux le comprendre, parce que c'est tellement, tellement croustillant et affriolant de se dire les uns et les autres n'ont pas fait leur boulot, et ça c'est parce qu'ils n'ont pas fait leur travail convenablement, qu'il y a des gens qui sont morts et qu'il y a des choses cassées. Ouais. Mais moi, je suis pas prêt du tout à accepter cette critique-là, mais pas du tout. Et ça me met, pour tout vous dire, dans une colère noire.
De quelle critique vous parlez ? La critique de « vous n'êtes pas prêt », c'est ça ?
Non, ni nous ne sommes pas prêts, ni on n'a pas donné l'alerte, ni à pas. Chacun a, par exemple, son boulot. Je ne le supporte pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque vous êtes venu chez nous, je vous ai parfaitement renseigné sur le fait que nous avions souscrit à toutes les possibilités de prévision. Voilà. Alors, on a des systèmes qui, pour une petite commune, bon, on est une commune connue, mais petite commune quand même de 6400 habitants, des systèmes qui sont très performants. On a des contrats avec Prédict, qui nous suit à la loupe. On a même, j'ai un adjoint qui téléphone à Prédict toutes les 4 minutes dès qu'il y a un nuage qui se déplace à moins de...
Mais donc vous avez reçu ces informations hier, c'était ma question.
Oui, mais on ne parle pas des bonnes informations. On ne parle pas des bonnes informations. C'est ça le problème. Il y avait de Météo France, il faut être très précis sur ces questions-là, de Météo France, il y avait une vigilance orange à 22h le 19, la veille, avec une annonce de 80 mm à 120 mm, une possibilité de chute de pluie de 80 mm à 120 mm à 22h sur le Var. Mais pour le Lavandou, puisque nous avons une prévision très ciblée, très précise, il y avait une alerte de 50 mm. C'est pas exactement pareil, quoi. Donc nous, on n'avait pas de soucis particuliers. Et Prédict a été contacté le matin même de cet événement, parce que moi, je suis toujours en souci. Quand on est, quand on est en charge, on n'a pas envie d'être dans le déni ou dans la critique. On a envie de faire le boulot un peu comme il faut.
Je voudrais qu'on donne la parole, Gilles.
Ça me paraît important.
Bien sûr.
Juste vous dire ça. À 6h30, j'ai téléphoné avec mes équipes à Prédict, qui a confirmé que l'épisode chez nous, ça ne serait pas plus que 50 mm. Et que donc, il y aurait un phénomène sur le département, oui, mais pas chez nous. Bon, parfait. Malgré ça, je déclenche l'alerte, d'accord, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on renforce l'alerte, c'est provisionnel, et j'appelle le préfet qui comprend très bien ce qui se passe chez moi et qui veut bien accepter de nous passer en alerte orange, et je demande qu'on passe en rouge. Bon, je veux dire, au préalable on a fait le boulot, quoi.
Mais c'est resté en orange. Je vais vous redonner la parole, Gilles Bernardi. Je voudrais qu'on distribue la parole et qu'on la donne à Alix Roumania, qui est avec nous, fondateur de Prédict Service. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur la transmission des informations et les fonctionnements des systèmes d'alerte hier ?
Hier, comme ça a été indiqué par Monsieur le maire, qu'on a eu à de nombreuses reprises, lui et ses équipes, il y a eu une montée en puissance. L'événement est très localisé. Ce qu'il faut voir, c'est des orages stationnaires qui ont touché la commune de Lavandou, le Mol, le Vidauban. Et donc, on a fait un travail un peu, on va dire, très chirurgical. Donc, comme ça a été indiqué, le lundi après-midi, on a fait passer le premier niveau de message de vigilance conforme à ce que nos collègues de Météo France avaient indiqué, des prévisions d'orages sur le secteur du Var pour le matin du mardi. Dès le mardi matin, nous, les équipes, ont passé la nuit, on regarde les images radar au kilomètre carré, les impacts de foudre. Et donc, dès le petit matin, exactement à 7h30, il y a eu un coup de fil qui a été passé pour dire il y a les orages qui sont au large arrivent, donc il faut commencer à se mobiliser. Il y a un renforcement de ces pluies. Dès 8h20, il y a eu, avec l'adjoint de monsieur le maire qui est en charge de tout ce qui est sécurité, il y a eu un appel en disant l'événement est stationnaire, donc il faut enclencher les actions du PCS, et ça, les actions que toute la mairie a réalisées à partir de 8h, de 8h20, avec des sécurisations de points bas, avec des mises en sécurité des crèches, des EHPAD. Le bilan de cet événement, même s'il est toujours trop lourd, il aurait été catastrophique. Donc hier, la chaîne d'information de ce qu'on appelle les avertissements opérationnels a fonctionné totalement. L'enclenchement des plans communaux de sauvegarde a été réalisé par les adjoints, par le directeur général des services de la ville du Lavandou.
Et être plus précis aujourd'hui, ça n'est pas possible. Alix Roumaniac, être plus précis aujourd'hui, vous m'entendez ?
qui a été effectué par les communes.
Alix Roumaniac, vous m'entendez ?
Et heureusement, parce que vu les conséquences de l'événement, le bilan aurait été catastrophique.
Est-ce que vous m'entendez, Alix Roumaniac ? Je voulais juste vous faire dire, j'ai l'impression que c'est ce que vous nous dites, qu'être plus précis, ça n'est pas possible ?
Alors, être plus précis, plus en avant, en fait, parce que dans ce type d'événement très localisé, c'est l'observation et c'est lorsque on a vu avec les images radar que l'orage qui traînait en mer a décidé de rentrer au niveau de Lavandou, que là on a enclenché toute la montée en puissance de l'alerte. Mais avec, on a envoyé avec nos partenaires assureurs plus de 330 000 SMS qui sont arrivés dès 8h moins 10 sur le Lavandou pour demander aux gens d'être prudents par rapport à ces pluies qui se mettaient en place.
Patrice,
donc on est là au max de ce qu'on peut faire dans l'état de l'art aujourd'hui.
Patrice Morin, je rappelle que vous êtes directeur du département risques naturels au CEREMA, Centre d'études sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. On entendait hier le témoignage notamment d'habitants sur la commune de Vidauban dire il y a eu beaucoup d'inondations ces dernières années, mais il faut qu'on aille plus vite sur les aménagements. Est-ce que les choses avancent et est-ce que, au fond, elles auraient pu, des aménagements différents auraient pu empêcher hier que le bilan soit aussi lourd ?
Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, la politique des risques naturels, et en particulier des inondations, elle est basée sur 7 piliers. Il faut toujours les avoir en tête quand on parle de ces sujets. C'est d'abord de bien connaître les risques, et donc notamment de cartographier, et nous, au CEREMA, on travaille beaucoup là-dessus sur les risques d'inondation. Surveiller, alerter, vous en avez parlé. Il faut également développer tout ce qui est culture du risque, c'est-à-dire que les gens ont tendance un peu à oublier les événements passés et donc rappeler régulièrement que ça peut se passer et qu'ils aient en tête ces événements. Ensuite, comme vous l'indiquez, prendre en compte ces risques dans l'aménagement, et donc ça on pourra y revenir, faire les travaux, mais ensuite se préparer à la gestion de crise et assurer les retours d'expérience.
Il nous reste une minute, Patrice Morin, si vous voulez revenir sur les aménagements, est-ce que ça progresse et maintenant ?
Oui, alors, donc justement, à partir de ces zones inondables, il faut se favoriser des zones tampons donc pour qui absorbent les crues, où on peut laisser les crues, et ensuite, à partir de la connaissance de l'aléa du risque d'inondation, préparer à revégétaliser, à adapter les zones habitables à être moins vulnérables à ces sujets d'inondation. Et c'est une culture qui progresse beaucoup en France sur ces sujets d'aménagement, justement. Mmh. Et bien entendu...
Mais monsieur le maire du Lavandou, il y a un instant, nous dit le quartier de Cavalière, c'est pas un quartier qui est très urbanisé. Il y a de la verdure, par exemple.
Oui. Mais la verdure, si la zone est inondable et que vous avez quelques... les habitations qui sont dessus, elles vont fortement être touchées. Uh-huh. Et puis en aval de ces zones vertes, vous allez aussi pouvoir avoir des habitations qui elles-mêmes vont être impactées. Donc ces choses-là sont à regarder parce qu'en termes d'inondation, il faut bien se poser la question de la hauteur d'eau et de la vitesse de l'eau qui arrive pour pouvoir se préparer et rendre moins vulnérables les aménagements que l'on est amené à faire. Mmh.
Merci à tous les trois. Le temps qui nous était qu'on pouvait consacrer à ce sujet est écoulé, mais je voulais vous remercier. Patrice Morin, directeur du département risque naturel au CEREMA, Alix Roumaniac de Predict Service et Gilles Bernardi, le maire du Lavandou. On aura l'occasion de reprendre de vos nouvelles, évidemment, dans les prochains jours. 13h46 sur Inter. La suite maintenant de notre revue des livres candidats au prix du livre Inter. Ils sont 10. Et voilà le troisième, Un perdant magnifique, signé Florence Sévos, que nous présente Eva Bétan.
La démesure est séduisante pour les enfants, surtout s'ils sont aimés follement. Jacques est leur beau-père, le regard est celui d'Anna, fillette puis adolescente. Quand elle n'avait pas sommeil, il lui apprenait à jouer aux échecs dans la cuisine. Il a fait damer un chemin pour que sa sœur et elle puissent faire du patin à roulettes. Jacques, c'était aussi le chaos dans leur vie, la générosité à crédit, les huissiers, la dèche, les règles de vie absurdes, la honte qui leur faisait parfois. Et pourtant, en tant que lecteur, on n'a pas peur pour elle, parce que c'est avec les yeux d'Anna.
Jacques peut être un peu comme une figure d'ogre par son autorité, c'est un tyran. Mais elles n'ont pas peur parce que les enfants ont un peu une forme d'inconscience. Donc je pense que quand on ne s'en prend pas à eux d'une façon violente ou perverse, ben, ils accueillent la vie un peu comme elle vient. Ça les sidère un petit peu, comment elles s'habituent à toutes sortes de situations. Une mère qui se sent au bord du gouffre tout le temps, voilà, des voyages à l'étranger, un beau-père, il faut éventuellement vider son compte épargne pour lui acheter un billet d'avion pour qu'il puisse revenir à Noël.
Ses enfants, ces deux filles, fillettes, elles veulent le protéger. Un jour, dans une discussion, toutes les deux, elles osent dire la phrase « il est peut-être fou ». Et quand même, elle veut le protéger. Je voudrais qu'on écoute un extrait, c'est page 79. À cet instant, j'ai compris que depuis des années, nous tenions notre langue. Nous ne parlions à personne des bizarreries de Jacques, pas plus à nos amis qu'à notre père ou à Katia. Nous nous protégeons de la honte qui brûle en nous, mais aussi nous le protégeons lui. La dernière personne à qui nous nous serions confiés était notre père. Le combat nous aurait semblé trop inégal, celui d'un homme respectable contre un homme que tout accuse. C'est quoi des enfants qui veulent protéger un adulte comme ça ?
Il me semble que les enfants très très souvent le réflexe de protéger les adultes. Ouais. Comme ce sont justement des adultes qui sont plus grands qu'eux, qui sont... c'est extrêmement... insécurisant, inquiétant de les voir déchus.
Comment vous faites pour être dans la peau d'Anna ?
Peut-être ça m'a aidé pendant longtemps d'écrire des livres pour enfants parce que ça a peut-être maintenu un lien. Voilà, ça fait que l'enfance est restée en quelque sorte à portée de main, mais Mais en fait, souvent, on a l'impression qu'on a oublié ou tout oublié. Et puis, on commence à tirer un fil et des choses reviennent. Et des choses qu'on pensait avoir complètement oubliées, elles surgissent de l'oubli, des situations, des sensations.
On pourrait élargir le propos, d'une certaine manière, pas seulement à cette histoire-là. Ça pose aussi la question, comment on vit avec des gens invivables ? Vous n'employez pas de mot médical, on ne sait pas ce qu'il a. Mais on peut imaginer que c'est un trouble mental.
Ça pourrait l'être, c'est pas sûr, mais ça pourrait l'être. Ça peut être très éprouvant de vivre avec des personnes comme ça, qui sont tout le temps dans l'excès, la démesure et parfois la tyrannie. Et en même temps, parfois on reste parce que je crois qu'on sent chez ces personnes un désir de vie qui est comme un peu plus fort que la normale. Je crois qu'on peut aussi être attiré par ces personnes qui sont jamais dans la norme et dans la tiédeur.
Un perdant magnifique. Florence Sévaux, c'est aux éditions de l'Olivier. Le prix du livre Inter sera révélé le lundi 2 juin et vous retrouvez toutes ces interviews, toutes ces présentations sur le site de Radio France.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mercredi à 13h50. Nous sommes avec le 1 Hebdo et Patrice Trappier. Patrice, aujourd'hui, vous demandez comment vont les parents à quelques jours de la fête des mères.
Une fête, Jérôme, qu'on pourrait considérer comme un folklore désuet, mais qui exprime en fait une tradition ancienne de sacralisation de la maternité. Songeons à certaines peintures préhistoriques, à Gaïa, la première divinité grecque, mère des dieux, symbole de la puissance nourricière, et ce don d'enfanter a fasciné les plus grands peintres. Combien de musées comptent des portraits de vierges à l'enfant ? Mais ce culte de la Madone ne devrait pas nous faire oublier qu'accueillir un enfant engendre des bouleversements auxquels bien peu de familles sont préparées. C'est pourquoi nous avons titré notre nouveau numéro du 1, Santé mentale, comment vont les parents ?
Alors, précisément, comment vont-ils ?
Pas très bien, dans l'ensemble. En tout cas, pas aussi bien que beaucoup l'imaginaient quand ils ont décidé de fonder une famille. Seule une femme sur cinq affirme avoir traversé cette période avec sérénité. L'arrivée d'un nouvel enfant engendre évidemment beaucoup de joie, mais aussi de la fatigue, des désordres psychiques qui touchent en priorité les mères, mais qui commencent à affecter aussi les pères. Dans une enquête passionnante, notre reporter Manon Polic lève le voile sur ce qui est resté longtemps un tabou. La moitié des mères souffrent de problèmes allant de l'anxiété à l'épuisement professionnel. Et l'on estime même que 20 à 30% d'entre elles sont atteintes de dépression périnatale beaucoup plus grave et durable que le baby blues, un phénomène passager dû à une chute d'hormones quelques jours après l'accouchement.
Mais enfin, est-ce que être parent est plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était hier ?
Oui, quand l'enfant était considéré comme un être secondaire, la question ne se posait pratiquement pas. Mais progressivement, on a pris conscience de ses besoins émotionnels, cognitifs. Des nombreux débats autour de l'éducation ne peuvent qu'interpeller les parents. Rappelez-vous la dernière polémique, éducation positive ou plus répressive ? Notre monde est saturé d'incitations à la performance, d'injonctions contradictoires, un faux pas, et l'on craint d'avoir perturbé le développement de notre enfant chéri. 80% des parents s'inquiètent pour l'avenir de leur progéniture, des menaces causées par le réchauffement climatique, cyberharcèlement, échec scolaire.
Alors, la partie la plus intéressante, Patrice, est-ce qu'il y a des solutions pour vivre la parentalité avec plus de légèreté ?
En tout cas, il n'y a rien d'évident, aucune solution magique, mais chacun devrait avoir en tête que le métier de parent est le plus difficile qui soit. S'efforcer de faire de son mieux, c'est déjà beaucoup. Quant aux femmes, se retrouver enfermées dans un modèle de mère idéale peut les conduire à sous-estimer leur fatigue, voire à nier leur désarroi psychique. Les professionnels de santé estiment qu'il y a une véritable urgence thérapeutique autour de la prise en charge, pour l'instant quasi inexistante, des dépressions périnatales. Dans les années 80, la psychanalyste Claude Boukobza a fondé à Saint-Denis l'une des premières unités d'accueil mère-enfant. Elle avait alors inventé une nouvelle forme de prise en charge, le holding du holding, être porté pour mieux porter. Pour que la mère puisse porter son nouveau-né avec amour et confiance, il faut également la porter, prendre soin d'elle, lui témoigner l'affection dont elle a besoin. C'est le rôle des soignants, mais aussi surtout des conjoints, des amis, des familles, finalement de toute la société, et pas seulement le jour de la fête des mères.
Je ne sais pas si vous allez redresser la courbe de la natalité avec tout ça.
Je suis pas
sûr. Patrice Trappier, c'est passionnant en tout cas, et c'est à la une du 1 Hebdo cette semaine. On va rester dans la thématique avec vous, Frédéric Pommier. C'est une chanson avec un humoriste belge, il s'appelle Guillaume.
Il est actuellement en tournée en France avec son spectacle « Guillaume vous détend ». Et c'est un titre de la québécoise Linda Lemay qu'il a souhaité que l'on écoute, sa chanson « une mère, un souvenir d'adolescence.
J'avais 14 ans et je me souviens, on était dans la cuisine de notre ancienne maison familiale. On avait encore une petite radio au-dessus du frigo. Et un soir, on était tous les deux avec ma maman et commence la chanson de Linda Lemay. Et je sens qu'elle met un peu plus fort et dès les premières paroles, je comprends que ça parle de la maman. Puis je vois ma maman écouter les paroles et je pense qu'elle pense à sa maman. Et avec la même émotion que moi, mais pour du coup une autre personne. Et elle a marqué un moment suspendu entre ma mère et moi et la sienne, qui n'était pourtant pas dans la pièce. Et donc, comme j'ai toujours été très 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 fusionnel avec ma maman, et puis sa maman aussi qui était ma bonne maman, je trouvais que cette chanson était un beau résumé de ce que peut représenter une mère aux yeux de beaucoup.
Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste.
C'est en 2006 qu'est sortie cette chanson de Linda Lemay, Une mère, Frédéric.
Et quand Guillaume parle de la sienne qu'il adore, il est intarissable.
Je fais partie de ceux qu'on peut appeler les fils à maman, non pas dans le sens où j'ai été pourri gâté et où j'ai vécu dans un milieu complètement aisé, comme on pourrait le dire d'un fils à papa, mais plus parce que j'ai toujours été planqué dans les jupes de ma maman dès le plus jeune âge. Quand j'allais chez des potes, quel que soit mon âge, je disais toujours « ma maman a dit que j'étais pas obligé de manger » parce que j'avais toujours peur de pas aimer ce qu'on allait me proposer, donc je me cachais encore derrière l'argument de « ma maman a dit que ». Et c'est vrai que même mes sœurs se moquent encore aujourd'hui de la relation que j'ai avec ma maman. Au divorce de mes parents, quand on a quitté cette fameuse maison familiale, j'ai accompagné ma maman qui a changé de ville et j'ai vécu chez elle jusqu'à mes 25 ans. Et puis quand j'ai eu l'occasion d'acheter ma première petite maison, j'ai acheté la maison de ma grand-mère et elle est dans la rue à côté de celle de ma maman. Et donc en fait, je reste un enfant de sa maman. Elle m'a toujours impressionné, elle a toujours été présente. On s'appelle tous les jours, enfin elle m'appelle tous les jours. Elle m'appelle 10 fois par jour, je décroche une fois, elle le sait, donc c'est un peu la loterie. Après, c'est pas du tout une relation glauque ou bizarre, hein. C'est juste qu'elle est omniprésente dans ma vie, aux grandes dames de mes amoureuses, mais voilà.
Est-ce que vous diriez que c'est la femme de votre vie ?
Oui, je pense.
Une mère, c'est là que ça nous protège. Avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère.
Votre mère, vous vous moquez beaucoup d'elle,
oui.
Dans vos vidéos notamment.
Oui. Et c'est ça aussi qui est très drôle, c'est que je la respecte énormément et je l'idéalise sûrement beaucoup, mais par contre, j'ai cette faculté à me foutre de sa tronche régulièrement, en privé comme en vidéo. Et symboliquement, c'est vrai que les premiers personnages que j'ai imités en vidéo il y a 10 ans quand j'ai commencé, c'était ma maman. Elle l'a découvert à travers des collègues qui lui disaient « mais ton fils t'imite bien », elle ne savait pas du tout de quoi elle parlait, puisqu'elle n'était pas au courant que je tournais des vidéos dans la maison à l'étage du dessus. Jusqu'à ce qu'un jour elle tombe sur ces fameuses vidéos et elle m'a chopé, elle m'a dit « mais je suis vraiment comme ça ». Et je lui ai dit « mais rien que de poser cette question de cette manière-là, tu as ta réponse maman ». Et donc c'est vrai qu'il y a toujours cette petite présence maternelle.
Semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque, toute seule, ça se retrouve.
Et vous arrivez de penser au moment où elle ne sera plus là, votre maman ?
Oui, je pense que j'y pense tous les jours. Je pense que c'est une de mes plus grosses angoisses. Je n'ose imaginer, quand on a une relation comme ça, à quel point ça doit chambouler une vie, un métabolisme, un corps, un esprit. Et donc ce sera mon rôle de continuer à la faire vivre différemment. Putain, il veut me faire pleurer ! On a arrêté pile au bon moment.
Mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire.
Une mère, Linda Lemay. C'était donc Frédéric, le choix de l'humoriste belge Guillaume.
Guillaume qui donne actuellement son spectacle Guillaume vous détend en tournée. Il sera vendredi à Puget sur Argens. Et le 14 juin à Petit-Caux, il sera également au Trianon à Paris les 6 et 7 mars 2026.
Merci Frédéric Pommier. Je vous dis pas à demain, mais à vendredi. Demain, émission spéciale de ce 13-14 consacrée au train du quotidien. Nous serons en direct de Lorraine. Ça va vous faire plaisir. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Le programme de La Terre au Carré.
C'est l'eau qu'on assassine, un dossier sur un sujet majeur, l'eau.
À tout de suite.